Direct en jeu, la radio insolite. Allez, direction les étoiles, direction l'espace. Parce que là, j'ai le bonheur d'accueillir Muriel, qui vient d'écrire un livre qui s'appelle La conquête de l'espace. Bonjour Muriel.
Bonjour Alain, comment ça va ?
Ah monsieur, ça va toujours. J'ai passé un moment tellement agréable à lire un livre. J'ai pas l'habitude de lire des pavés qui font 200, 300, 400 pages. Mais là, j'ai pas vu le temps passer, je me suis régalé. Et puis j'ai trouvé ça intéressant. Voilà, c'est... Mais je me suis quand même posé la question, puisque j'ai attaqué très fort avec le titre du livre. Je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ce titre ? C'est un titre original quand même.
Oui, bah écoutez, la conquête de l'espace, bah comme vous l'avez compris, puisque vous avez lu le livre, il ne s'agit pas de la conquête spatiale avec des fusées et des astronautes.
Ah bon?
Non, j'ai découvert ce titre en fait en jouant avec le mot « espace », parce qu'il s'agissait pour moi de trouver ma place en tant que personne qui écrit, trouver un espace à moi, conquérir un espace intime, que je, comme vous l'avez compris dans le texte, que je gardais à distance, comme beaucoup de femmes et d'hommes d'ailleurs, que je n'osais pas investir. Donc il y avait un espace géographique. Et quand j'ai décidé d'écrire, j'ai ressenti un fort désir de sortir, marcher dans la nature pour réfléchir, un peu comme Rousseau avec ses promenades, ses rêveries de promeneur solitaire, pardon. Ou Nietzsche, par exemple. Et là, je me suis rendu compte que je n'y arrivais pas. Je n'arrivais pas du tout à sortir seule dans la nature. Et donc, j'ai essayé de comprendre pourquoi. Et je me suis rendu compte qu'on était très nombreux à ressentir cela. Donc, en quelque sorte, cette conquête de l'espace, c'est un espace à la fois intérieur et extérieur. Et en fait, les deux s'enchaînent, en quelque sorte. Donc, voilà. Donc, quand le titre m'est venu à l'esprit, c'était parfait en fait, parce que ça reprenait toute la thématique de mon livre, et peut-être que c'était aussi un pied de nez à la conquête de l'espace, celle qui est plus attribuée aux hommes. En tout cas, dans ma famille, mon père et mon frère sont tous les deux des passionnés de la conquête spatiale. Donc, c'était peut-être aussi un pied de nez par rapport à ça, ou des hommes comme Elon Musk. Et voilà, je pense que la conquête de l'espace, elle peut se faire sur Terre et à l'intérieur de soi.
Bon, on revient juste, hein, on fait un peu marche arrière. Qui êtes-vous? Vous êtes tombée dedans quand vous étiez petite? Qu'est-ce qui vous a pris là? On ne se met pas comme ça du jour au lendemain devant une feuille blanche et puis on commence à écrire.
Non, c'est vraiment pas du jour au lendemain. Alors, moi, je suis journaliste. J'ai commencé ma carrière de journaliste à Londres après des études d'histoire à la Sorbonne. Je suis partie en Erasmus. Je suis restée là-bas pendant 5 ans. On est à la fin des années 90. Puis, je suis rentrée à Paris et je me suis mise à écrire, mais vraiment toujours dans le journalisme. Mais très rapidement, j'ai commencé à avoir des envies d'écrire des textes beaucoup plus personnels. Ce que j'ai fait, mais en les gardant pour moi, comme c'est souvent le cas pour les écrivains. Ils écrivent, mais ils ne les montrent pas forcément. Et mon premier, parce que j'ai écrit un livre avant celui-là, qui s'appelle L'énigme Marjorie, publié aux éditions Robert Laffont. Il a été publié en 2016. Et là, c'était une sorte de continuité de mon travail de journaliste, mais c'était un premier pas vers l'écriture dans le sens publié. Enfin, le fait de faire c'était une enquête au très long cours. Donc voilà. Mais suite à cette publication, je me suis dit que j'ai écrit cette enquête. J'étais fière et en même temps, je sentais qu'il me manquait quelque chose. J'avais besoin d'aller plus loin en moi-même. Et d'aller chercher des choses plus personnelles et peut-être avec une dimension plus littéraire.
Vous êtes quand même journaliste spécialisé en énergie et climat, donc c'est un peu étonnant de se retrouver sur un autre sujet comme ça.
Oui, alors dans un certain sens, aujourd'hui, quand vous êtes journaliste, vous avez, pas tout le monde, mais moi, j'ai toujours travaillé en agence de presse, et en agence de presse, vous spécialisez automatiquement. Vous avez ce qu'on appelle un beat, donc un secteur, et vous devez couvrir les moindres développements de ce secteur. C'est ce qu'attendent de vous les clients. Et donc, moi, je me suis spécialisée vers 2006 dans l'énergie et le climat. Parce que il y avait un poste qui s'était ouvert tout simplement et ça m'a intéressée. Et donc, je suis restée en fait à la pointe de ce secteur parce que, voilà, parce que ça me passionne. Mais je pense que c'est pas parce qu'on est passionné par un secteur qu'on n'a pas envie de faire d'autres choses. Et puis, le journalisme, pour moi, d'une certaine façon, a ses limites dans le sens où. Il y a toujours un côté où c'est assez limite parce que un article voilà fera une page, deux pages grand maximum, et vous pouvez pas tout raconter. Il y a toujours un angle et c'est jamais très personnel. Donc et on parle des autres, c'est aussi ça. Enfin, ce que j'ai peut-être pas dit tout à l'heure, c'est que le journalisme pour moi c'est aussi une sorte, ça a été une sorte de comment dire, une évolution naturelle. Parce que quand j'étais enfant, j'écoutais beaucoup ma mère me parler. Et quand je l'interrompais, elle me disait et toi, et 700 millions de Chinois. Et donc j'ai pris le pli d'écouter les autres et de relater et d'enregistrer, etc. Et de réécrire, mais de me laisser de côté. Et là, justement, dans ce projet, je fais l'inverse. Au tout début, j'avais décidé de faire un portrait très objectif d'un journal, pour être tout à fait honnête avec vous. Mais je me suis rendu compte que non, au contraire, j'avais envie justement de me mettre au centre pour une fois, et de parler de moi et de d'une certaine manière que ce village me révèle et pas que ce soit l'inverse. Voilà, changer un peu l'ordre des choses.
Il y a une chose que j'adore aussi dans votre parcours, c'est que je pense que vous n'avez pas choisi au hasard les éditions qui vous publient, parce qu'elles ont un nom qui sort un peu de l'ordinaire aussi.
La tribu.
Ben
Oui,
voilà.
c'est original en effet. Et oui, allez-y, je vous écoute.
Ça correspond bien, comment dire, à votre démarche et tout. Alors, je suis obligé de vous poser la question, parce que juste avant, on m'avait dit, non, mais c'est pas ça. Le livre est quand même légèrement taxé de féminisme.
Une quoi, une? Pardon,
Le
j'ai pas
livre
entendu.
est souvent taxé de féministe.
Ah oui, bon bah alors,
Suis obligé, j'ai pas le choix.
oui, non mais je sais. Alors bon, déjà c'est une très bonne question. Le point de vue en effet est celui d'une femme qui évoque des problématiques de femmes. Alors est-ce que ça en fait un livre féministe? Je ne crois pas parce que le récit, s'inscrit dans l'histoire du patriarcat. Et les difficultés que les femmes souvent éprouvent à avouer leurs désirs les plus enfouis, comme celui d'écrire ce livre par exemple, parce qu'elles se sentent pas légitimes. Mais je pense que le livre parle aussi aux hommes, parce que eux aussi, au final, ressentent des injonctions,
Bah oui.
vivent dans un système patriarcal de classe qui peut être tout aussi oppressant en fait, parce que à partir du moment où on vit dans un système comme ça, ça veut dire qu'automatiquement il y a des injonctions qu'on soit homme ou femme. Voilà, les hommes, il y a une injonction faite à bien gagner sa vie, à être celui qui va être le protecteur, celui qui ne montrera pas ses faiblesses. Et je pense qu'il y a beaucoup d'hommes, par exemple, qui rêvent secrètement de devenir artistes ou écrivains et qui ne le font pas. Et bon, ça, c'est un rêve comme un autre, mais ça peut être un autre rêve. Et donc, non, je pense que le texte s'adresse à des hommes, on va dire, sensibles, à des gens sensibles, parce que des femmes qui ne seraient pas sensibles, le texte ne les intéresserait pas forcément non plus. Donc oui, point de vue de femme, c'est féministe et je ne vais pas dire masculiniste parce que ça ne, le mot ne correspond pas, mais Il est sur la condition humaine, tout simplement.
Alors, j'ai commencé à lire le livre et je me suis interrompu parce que je me suis dit, c'est pas possible, il faut que j'aille faire un tour pour savoir qui c'est. Et là, vous les appelez vos marraines guidantes. Donc, j'ai fait un tour en direction de Colette, de Virginia Woolf
ouais.
et
ouais.
de Simone de Beauvoir. Je me suis dit, oh, des gens pas très connus quand même.
Oui, bon, d'accord, je suis d'accord avec vous. Ils sont tous extrêmement, extrêmement connus. Et d'ailleurs, il y a ces femmes-là et il y en a d'autres. Hein. Il y a Duras aussi, par exemple, que vous n'avez pas évoqué, qui est tout aussi connu. Mais dans ce livre, je fais appel, en fait, à, vous l'avez remarqué, à beaucoup, beaucoup, beaucoup de voix. Il y a effectivement des auteurs, des autrices, des philosophes, des poètes, mais il y a aussi des amis, par exemple, Eunice. Qui est un personnage récurrent. Il y a Ed, mon compagnon. Il y a ChatGPT aussi. Alors, quand je l'ai écrit,
c'est
c'était
qui,
un peu
lui?
moins, c'était un peu moins la mode. Enfin, on
oui.
en parlait moins. Mmh. Ça venait juste de sortir.
Mmh.
Mais c'est vrai que dans des moments, en fait, dans des moments où parce que je me pose tout un tas de questions dans ce livre et j'avais besoin de trouver des réponses où au moins des débuts de réponse ou des petits points de lumière dans mon cheminement. Et en fait, ces auteurs, ces autrices, ChatGPT, mes amis, etc., m'apportaient tous des éléments de réponse. Donc, c'est plutôt ça dans ce livre. C'est des marraines guidantes, oui, des parrains guidants aussi. Mais essentiel vraiment dans cette réflexion.
Et ça correspond en plus à un certain style d'écriture. C'est surtout ça qui... parce que quand je me suis renseigné sur ces personnes-là, j'ai repris le livre et je ne l'ai pas vu de la même manière. Parce que justement, comment dire, ce sont des femmes qui n'ont pas hésité à s'exprimer elles aussi.
Tout à fait, oui, oui. Si on prend Simone de Beauvoir, elle est juste un peu la fondatrice du féminisme.
Légèrement.
Enfin, à l'ère moderne.
Mmh.
Elles n'ont pas hésité, mais elles sont intéressantes parce que, par exemple, Simone de Beauvoir, elle est très importante parce que ce que je vous expliquais tout à l'heure, dans ce livre, je me confronte donc à mes peurs intimes. Enfin, cette peur de ne pas se sentir légitime, d'avoir cette petite voix intérieure qui vous dit « mais non, t'es pas à la hauteur, pourquoi quelqu'un s'intéresserait à ce que tu penses, etc. » Donc c'est ça, ne pas se sentir légitime. Mais ça s'accompagne aussi d'une, comment dire, à partir du moment où j'avais décidé de, comment dire, d'écrire ce livre, j'ai décidé de sortir, réfléchir en me promenant dans la nature. Et c'est là où Simone de Beauvoir joue un rôle important, c'est que Simone de... Enfin, je reprends. Quand je me suis dit, je vais écrire ce livre, j'ai ressenti le besoin de marcher pour réfléchir. Or, j'avais peur de sortir seule dans les bois. J'ai pas de chien, etc.
D'accord.
Et sortir seule dans la nature, c'était pas quelque chose du tout de naturel pour moi. Mmh. Je pense que ça l'est pas pour beaucoup de femmes,
mmh.
Parce que on a peur de se faire agresser. Enfin, on a peur de l'inconnu qui va venir nous agresser. Je l'ai quand même fait parce que j'avais besoin de me confronter à mes peurs. Et c'est là que je rebondis sur Simone de Beauvoir. Simone de Beauvoir a fait exactement la même chose dans sa jeunesse. Elle ressentait ce besoin de se confronter à ses peurs pour pouvoir avancer et pour se sentir puissante d'une certaine façon. Parce que quand on est femme et qu'on utilise notre corps pour avancer dans une forêt ou dans la nature, etc., on se sent puissante. Et on sait bien que le cerveau chemine avec le corps et chemine beaucoup mieux quand le corps avance. Il y a vraiment quelque chose de cette nature-là. Et donc, oui, et Colette aussi, d'ailleurs. Colette, elle a arpenté les bois autour du village où j'ai cette maison. Et voilà, elle avait Bon, elle était enfant, donc c'est pas exactement la même chose. Je pense qu'on n'a pas le même rapport au monde extérieur quand on est enfant et quand on est adulte. Mais en tout cas, elle, pour elle, les bois n'étaient qu'une extension d'elle-même. Et ce que je recherchais, c'était ça aussi, c'était de ressentir la nature comme une extension de moi et pas comme quelque chose d'étranger. Voilà, ça c'était vraiment important pour moi.
D'accord. Vous serez où le 27 mai?
Ah, je serai dans un hôtel à Paris.
Pourquoi le 27 mai? Mais pourquoi est-ce que je pose le 27 mai? Franchement. Ah.
Écoutez, c'est une très bonne question. Oui, j'ai effectivement été, je suis finaliste pour un prix qui s'appelle le prix Léo Cher. C'est un prix littéraire et c'est sa première édition en 2025. Et oui, je concours aux côtés de personnes qui sont, voilà, qui sont des grands écrivains. Donc ça me fait très, très, très plaisir. Je suis très touchée par cette sélection, en effet.
Ce qui m'en voulait pas, ce qui m'a surpris, je me suis dit, à peine le deuxième livre est déjà un prix, un concours.
Ah ben je l'ai pas le prix hein,
Non,
pour
pardon,
l'instant.
la sélection pour un concours.
Oui. Ben alors oui, ça il faut leur poser la question.
Ouais,
Pourquoi
j'allais vous demander
moi?
pourquoi vous?
Pourquoi moi? Je peux pas vous répondre. Franchement, j'étais étonnée. J'étais très étonnée. Enfin, je suis presque tombée de ma chaise en apprenant en apprenant cette sélection. Enfin, au départ, c'était une sélection de 10, et puis après, ça s'est affiné à 5. Et là, j'avoue que je m'y attendais pas du tout. Donc, c'est une très, très belle surprise. Mais bon, je pense que le livre
C'est
parle
plus.
aux gens,
Ouais.
et ça, voilà, c'est la preuve que, en tout cas, ça a parlé aux membres du jury, et tant mieux. Enfin, tant mieux, tant mieux.
Oui, parce que il y a une question que j'ai oublié de vous poser. Moi, je me suis demandé à un moment donné si c'était un roman ou une biographie. Je me suis posé la question.
Ah, écoutez, alors c'est, je dirais que c'est un
Roman
récit à
biographie,
la, un,
une biographie romancée.
alors biographie, non, parce qu'une biographie tend à reprendre toute une vie. Là, c'est finalement c'est le cheminement intime d'une femme finalement qui, en découvrant une maison et un village liés à sa grand-mère, voilà, renoue avec son désir enfoui d'écriture. Donc, pour ce faire, elle doit explorer ses empêchements, les entraves à sa propre réalisation, et elle doit réfléchir à la transmission entre plusieurs générations de femmes. Donc, il y a un peu un effet poupée russe avec d'abord Muriel, puis on découvre ma grand-mère Betty, et puis à l'intérieur de Betty, on découvre Colette, on découvre ma mère, etc. Donc, il y a une sorte de transmission en quelque sorte d'un territoire littéraire. Mais je dirais pas que c'est une biographie, non, parce que c'est vraiment, c'est le cheminement d'une thématique bien particulière. Je ne parle pas, par exemple, du fait d'avoir été mère ou ce genre de choses. Donc il y a plein de choses qui ne sont pas dans le livre. C'est c'est un parcours, et c'est sur 4 années. Voilà, c'est quand même bien spécifique. Mais c'est à la première personne, et je dirais que c'est un roman, peut-être ce qu'on appelle un roman vrai ou un roman d'autofiction. Alors, je ne sais pas vraiment quel est le terme. Je pense que le terme générique aujourd'hui, ce serait plutôt, on a plutôt tendance à parler d'autofiction, mais je ne suis pas sûre d'être très fan du mot autofiction, parce que dans le mot autofiction, il y a le mot fiction. Et c'est pas une fiction. Là, on parle vraiment,
C'est du vrai.
c'est du vrai, tout est vrai. Il n'y a pas d'invention, mis à part, voilà, par moment, je rentre dans, par exemple, il y a un passage sur une photo où j'imagine ce qui aurait pu se passer après le déclenchement de cette photo. Mais donc, l'imaginaire prend le relais par moment, comme on fait dans la vraie vie. C'est pour ça que les photos sont aussi intrigantes, ou même des lettres qu'on peut retrouver. On se demande dans quel quel contexte elles ont été prises, est-ce que les gens étaient de bonne humeur, est-ce qu'ils étaient en train de s'engueuler, est-ce qu'ils étaient de bonne humeur, qu'est-ce qu'ils étaient en train de faire? On se pose toutes ces questions. Et moi, je n'échappe pas à la règle dans ce livre. Mais non, je dirais que c'est un roman du réel et en quelque sorte, mon livre précédent, qui s'appelle donc L'énigme Marjorie, c'est une matière vraie aussi. Je suis journaliste, donc dans un sens, je pense que j'aurais beaucoup de mal à écrire une fiction. Et puis je trouve que la réalité est passionnante en plus. Donc la réalité est passionnante et je trouve que d'analyser ce qui nous arrive, de chapitrer ce qui nous arrive, de transformer ce qui nous arrive en livre est quelque chose de vraiment passionnant.
Ça, c'est vrai. Et en plus, méfiez-vous, quand vous ouvrez le livre et vous lisez la première page, vous avez déjà envie d'aller à la dernière page et vous ne voyez pas le temps passer. Il faut se prendre tranquillement un endroit bien cool pour pouvoir profiter de cela. Je vous remercie de nous avoir présenté tout cela parce que c'était une manière différente de découvrir le livre. Je suis sûr que si je le relis à nouveau, je vais le lire d'une manière différente et tout. En tout cas, moi, merci d'avoir pris ces quelques minutes pour nous expliquer tout cela.
Bah écoutez, merci beaucoup à vous, Alain. Et donc, bah, rendez-vous le 27 mai.
Et oui. Et oui, puisque je me permettrai de suivre l'actualité, de voir un peu ce qui vous arrive. D'accord ?
Bah écoutez, c'est adorable. Je vous remercie. Je vous remercie vraiment beaucoup.
Merci.